إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de son livre et l'explication du sens de ses paroles. Nous en sommes au verset 233 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى dit dans le sens: les mères nourricières allaiteront leurs enfants deux années révolues pour celles du moins qui entendent mener l'allaitement à son terme. Et c'est au père qu'incombe, selon ses moyens, de lui verser un salaire et de la vêtir. On imposera à chacun que ce qu'il est en mesure de supporter. On ne fera du tort ni à la mère ni au père à travers son enfant. Et l'héritier du père aura à supporter les mêmes charges que celui-ci. Ils ne seront pas à blâmer si, après s'être consultés, ils décident d'un commun accord de sevrer l'enfant. Vous ne serez pas davantage blâmés d'avoir sollicité une nourrice étrangère pour vos enfants si vous acquittez son salaire en toute équité. Craignez Allah et sachez qu'il voit tout ce que vous faites. Allah tabarak wa ta'ala, dans ce verset, parle de certaines règles liées à l'allaitement de l'enfant. Dans sa parole, deux années révolues pour celles du moins qui entendent mener l'allaitement à son terme. Cela veut dire que si l'enfant est allaité pendant deux années révolues, son allaitement sera complet. Et à partir de là, le lait deviendra pour lui comme une nourriture ordinaire parmi les autres nourritures. C'est pour cela que l'allaitement après les deux années révolues n'est pas considéré et ne rend pas interdit au mariage. C'est-à-dire que pour qu'une personne soit un enfant de lait, il faut que l'allaitement soit fait avant les deux ans. Et après les deux ans, l'allaitement n'est plus considéré, sauf ce que les savants discutent. Il y a divergence sur un point dans certains cas spécifiques.
Mais sinon, la règle, c'est que l'allaitement qui rend interdit au mariage, c'est celui qui est avant les 2 ans. Bien sûr, 2 années égyriennes. On peut déduire de ce texte et aussi de la parole d'Allah Ta'ala dans un autre verset, « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا » La grossesse et le sevrage couvrent une période de 30 mois, que la durée minimale de la grossesse est de 6 mois, pendant lesquels l'accouchement peut avoir lieu. Puis dans sa parole, « Et c'est au père qu'incombe, selon ses moyens, de lui verser un salaire et de la vêtir. » Ceci concerne la femme qui est toujours avec son époux ou qui est divorcée, qui doit être à la charge de l'époux dans son entretien et dans les dépenses de l'allaitement. Ceci prouve aussi que tant que la femme est avec son époux, il n'est pas tenu de lui donner un salaire. Il se suffira de dépenser pour l'entretenir, pour l'habiller, comme à son habitude. Et ce, en fonction des moyens de chacun. À la différence de celle qui est divorcée et qui allait cet enfant, alors elle pourra prétendre à un salaire. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens, « On imposera à chacun que ce qu'il est en mesure de supporter. » En effet, on ne peut imposer aux pauvres de dépenser comme le riche, de même qu'à celui qui n'a rien à dépenser, jusqu'à ce qu'il trouve de quoi dépenser. Puis dans la parole, on ne fera du tort ni à la mère ni au père à travers son enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de porter préjudice à la mère à travers son enfant, soit en l'empêchant de l'allaiter, ou bien en la privant de ce à quoi elle a droit comme dépense d'entretien et d'habillement, ou du salaire si elle est divorcée et qu'elle l'allaite. La femme aussi ne doit pas faire de tort à son époux à travers l'enfant, c'est-à-dire en refusant de l'allaiter, ou en demandant plus que ce qu'elle a besoin, ou par toute autre cause de tort vis-à-vis de son époux ou de son ex-époux. Puis dans la parole d'Allah Ta'ala, son enfant prouve que l'enfant est attribué au père. Et c'est pour ça que l'enfant porte le nom du père, car il est de sa semence. Et c'est pour cela que le père a le droit de prendre des biens de son enfant, avec ou sans son accord, contrairement à la mère. Nous connaissons le hadith de la personne qui s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que son père avait pris dans ses biens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, « Toi et ton argent vous appartenez à ton père. » Puis dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens, dans la traduction, « Et l'héritier du père aura à supporter les mêmes charges que celui-ci. » C'est-à-dire en l'absence du père, si le père meurt et il a un héritier, son héritier qui se trouve en charge de l'enfant devra assumer les mêmes charges de dépenses d'entretien et d'habillement que le père. Ce verset prouve aussi l'obligation de dépenser pour les proches héritiers aisés au profit des proches nécessiteux, même si ce ne sont pas des personnes qui sont directement à leur charge. Beaucoup de gens posent la question, est-ce que je peux donner ma zakat à mon frère? Est-ce que je peux donner ma zakat à mon oncle? Est-ce que je peux donner... Avant même la zakat, ces gens-là, ils ont un droit sur toi. Du fait que c'est ton frère, du fait que c'est ton oncle, si cette personne est dans le besoin financier et toi, tu as le moyen de l'aider, tu es dans l'obligation de l'aider. Et tu es pécheur si tu ne le fais pas. Tu ne dois pas attendre seulement la zakat pour l'aider. Puis Allah Ta'ala a dit dans le sens, ils ne seront pas à blâmer, c'est-à-dire les deux parents, si après s'être consultés, ils décident d'un commun accord de sevrer l'enfant. C'est-à-dire avant l'achèvement de la période de 2 ans. S'ils sont tous les deux d'accord et qu'ils voient que cela va dans l'intérêt de l'enfant, ils ne seront pas à blâmer. Le sens de ce verset prouve que si l'un des deux désire ce sevrage en dehors de l'autre, et s'il n'y a pas d'intérêt pour l'enfant, il n'est pas permis de sevrer l'enfant. Il faut l'accord des deux parents pour le sevrer avant les 2 ans. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, « Vous ne serez pas davantage blâmés d'avoir sollicité une nourrice étrangère pour vos enfants si vous acquittez son salaire en toute équité. » C'est-à-dire qu'il vous est permis de chercher des nourrices étrangères à vos enfants en dehors de leur mère, à condition que ce ne soit pas dans le but de porter préjudice à ces dernières. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de savoir qu'il voit toutes choses et qu'il voit tout ce que l'on fait et qu'il va donc rétribuer chacun selon ce qu'il mérite. On voit encore ici la sagesse des lois divines qui sont venues déterminer le droit et le devoir de chacun et réglementer la vie de l'être humain, que ce soit avec son Seigneur, que ce soit avec la société, ou que cela soit avec même ses enfants, ou chez lui, sa famille. Et en réalité, tout le bien est dans l'application des lois d'Allah, et tout le mal est quand on s'éloigne de la connaissance, de l'apprentissage et de l'application des lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلى وأعلم وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم